Radio Okapi.
Le journal. Lievin Mbwinga Vubu à la présentation.
Bonsoir et bienvenue à tous. D'abord les titres de ce journal. Échec des négociations hier lundi à Luanda entre Kinshasa et la rébellion du M23. Et pour cause, la coalition AFC-M23 décidait en dernière minute de se retirer du processus. Raison évoquée, les sanctions prises par l'Union européenne contre certains de ses membres et contre le Rwanda. La desserte en eau potable, un casse-tête dans la ville de Bounia. La régie des eaux est confrontée à d'énormes difficultés et n'arrive même pas à desservir le quart de la population actuelle de la ville. De nombreux ménages ont résolu de forer des puits d'eau dans leurs parcelles. Quelles en sont les conséquences? Réponse dans ce journal. L'invité de ce journal est justement le directeur provincial de la régie des eaux Ituri, Christian Beto Amoyene, va nous expliquer le besoin de la population de Bounia en eau potable, une population qui compte environ 2 millions d'habitants. Et c'est tout pour les titres. Raté des négociations directes entre le gouvernement de la RDC et le M23 AFC sous la médiation angolaise hier lundi à Luanda. Ces pourparlers devaient s'ouvrir ce mardi 18 mars dans la capitale angolaise. Mais coup de théâtre, hier lundi dans la soirée, la coalition AFC-M23 s'est retirée de ce processus. Raison évoquée, les sanctions de l'Union européenne contre certains de ses membres et contre le Rwanda. Jusque-là, les choses n'ont pas évolué. C'est un reportage de Martial Papimukeba, rendu par Jeff Ngoy.
Jusqu'à ce midi, aucune indication n'a été donnée à Luanda quant au démarrage effectif des négociations directes entre Kinshasa et le M23. Si la délégation du gouvernement est déjà sur place, la rébellion est absente de la capitale angolaise. Nos sources précisent que l'Angola, qui assure la médiation entre les deux parties, devrait officiellement donner sa position ce mardi. Hier, la coalition AFC-M23 a décidé de se retirer des négociations en accusant certaines institutions internationales de saboter les efforts de paix en RDC, en imposant des sanctions à ses membres, y compris à la veille des discussions. En effet, Bertrand Bissimwa, président du M23 et coordonnateur adjoint de l'AFC-M23, figure parmi les personnes sanctionnées par l'Union européenne. Nos sources indiquent que des efforts diplomatiques sont en cours pour ramener le M23 à la table des négociations. La communication attendue de l'Angola devrait apporter des précisions sur la poursuite ou non de ces processus de négociation directe entre Kinshasa et le M23.
Direction Nord Kivu à présent, où ce refus du M23 de participer aux discussions de paix initialement prévues à partir de ce mardi à Luanda semble être un coup dur pour les habitants de l'est du pays, du moins ceux qui ont été contactés par notre reporter. Pour les habitants de la zone occupée par ce mouvement, c'est tout un espoir qui disparaît. Leur réaction dans ce reportage de Bernard Denyangi.
Alors que les habitants vivant sous stress voyaient déjà un début de solution à leur souffrance, alors que d'autres acteurs vivant sous menace au quotidien pensaient échapper à la mort et quitter leur cachette dès ce mardi 18 mars, voilà que le compteur est à nouveau remis à zéro, estime cet activiste.
Pour toutes les populations vivant dans les zones en proie à la guerre, celles qui sont en déplacement sans aucun espoir, la date 18 mars 2025 était celle de tous les enjeux, mais en un clin d'œil, tous les espoirs tombent.
Cet autre acteur, qui ne cache pas son étonnement face à ce revirement du 1-23, pense que la médiation ne ménagera aucun effort pour faire retourner les rebelles sur la table des négociations.
Pour nous, c'est une déception. Nous pensons que ceux qui ont été choisis pour conduire, c'est pour parler, vont travailler d'arrache-pied pour ramener la partie absente à la table des négociations afin d'engager les discussions directes. Aussi, les sanctions de l'Union européenne ne pouvaient pas directement enclencher une telle colère de dire on ne participe pas, d'autant plus que c'est pour parler qui engage l'État congolais. Et les M23, ils se disent des Congolais. C'est vraiment un motif qui ne colle pas.
Rappelons que ces pourparlers devraient être les premiers entre le gouvernement congolais et ce groupe rebelle soutenu par le Rwanda, qui a repris les armes depuis fin 2021, s'emparant des vastes pans du territoire dans l'est de la RDC.
Recherche de solutions toujours en rapport avec cet échec de négociation. La société civile du Sud Kivu, elle, souhaite que les négociations avec les rebelles du M23 revêtent un caractère inclusif. C'est le point de vue qui ressort du communiqué signé par les acteurs de différentes composantes de la société civile de la province du Sud Kivu. Rachel Kiesse nous en dit plus.
Néné Bintou, présidente du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, exige des clarifications sur les négociations de Luanda, bien que chancelantes. Elle souhaite que les négociations, au cas où elles auraient lieu, puissent inclure les représentants de deux chambres du Parlement et les structures de la société civile afin de baliser la voie vers une paix durable. Toujours selon Néné Bintou, l'avenir du Sud Kivu dépendra de la qualité des acteurs capables de plaider pour une solution juste, équitable et durable. Un autre acteur de la société civile de la même province du Sud Kivu fait savoir que les résultats des négociations limitées aux seuls représentants du gouvernement et des rebelles M23 ne sauront satisfaire aux attentes du peuple congolais. D'où la nécessité d'élargir le cercle de participants. Oswald Rubasha appelle au dialogue entre Congolais pour sortir la partie orientale de la RDC de la crise sécuritaire et que donc pour lui il est important de consolider la cohésion nationale et restaurer la confiance entre les Congolais.
À propos encore de cette crise, sachez qu'une réunion ministérielle conjointe EAC-SADC s'est tenue hier à Harare, au Zimbabwe. Cette réunion était co-présidée par les ministres des Affaires étrangères du Zimbabwe et du Kenya en leur qualité de président respectif de la SADC et de l'EAC. La ministre d'État chargée des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, a pris part à cette réunion consacrée à la situation dans l'est de la RDC. Elle a insisté sur l'impératif d'action concrète en accord avec la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui offre un cadre renforçant et complétant les efforts régionaux et sous-régionaux, peut-on lire sur le compte X du ministère des Affaires étrangères. D'autres sources parlent de l'adoption d'une feuille de route détaillant les mesures de mise en œuvre immédiate à moyen et à long terme pour une résolution du conflit dans l'est de la RDC qui sera soumise à un sommet conjoint EAC-SADC pour adoption. Diplomatie parlementaire, Vital Kamerhe reçoit les assurances de soutien des États-Unis et de l'Espagne en rapport aux efforts de pacification de la RDC, dont l'Est est occupé par le M23 AFC soutenu par l'armée rwandaise. Au cours des échanges, l'envoyé spécial de Donald Trump et l'ambassadrice d'Espagne en RDC ont tour à tour réaffirmé lundi au président de l'Assemblée nationale l'attachement de leurs pays respectifs à la souveraineté du Congo et au rétablissement de la paix dans sa partie Est. Pour Ronnie Jackson, les États-Unis soutiennent toute démarche pouvant ramener la paix, y compris le dialogue direct entre le gouvernement congolais et le M23 qui devrait s'ouvrir à Luanda. Carmen Diaz Orejas se rassure de l'amitié de l'Espagne à la RDC pendant ces moments difficiles. Michel Kifindangoy nous fait le résumé de ces audiences.
En tant que membre du Congrès américain, Ronnie Jackson témoigne du soutien total des États-Unis à la RDC concernant son droit légitime du respect de son intégrité territoriale. L'envoyé spécial de Donald Trump affirme que la nouvelle administration américaine travaillera pour le retour de la paix en RDC afin de permettre aux entreprises américaines de saisir les opportunités d'affaires offertes dans différents secteurs. Ronnie Jackson.
Nous voulons que la paix puisse être rétablie ici en RDC. Et nous, en tant qu'États-Unis d'Amérique, nous voulons travailler pour que la sécurité et la paix puissent être restaurées. Le président Trump, c'est un homme d'affaires. Il aimerait effectivement que les États-Unis et le Congo puissent s'engager dans les domaines des affaires pour le développement de la République démocratique du Congo, mais aussi pour notre propre sécurité.
Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale interpelle les diplomates américains sur la nécessité d'un accompagnement international pour la réussite de la démarche de Luanda. Vital Kamerhe insiste sur la cohésion nationale pour prévenir de nouveaux conflits. Et c'est dans la même perspective que l'ambassadrice d'Espagne en RDC, Carmen Diaz Orejas, rassure du soutien de son pays à la RDC au niveau national et local.
Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Au Nord Kivu, des affrontements violents se sont poursuivis dans la journée de ce mardi 18 mars sur l'axe Masisi-Walikale entre les FRDC Ouazalendo contre les rebelles du M23 AFC. Des sources locales indiquent que la coalition FRDC Ouazalendo a réussi à dérouter des rebelles dans la région de Luvungi et Mpofi à une cinquantaine de kilomètres de Walikale centre. Les rebelles se seraient retirés dans la brousse, indiquent plusieurs sources. Toutefois, la situation situation demeure imprévisible, le trafic toujours suspendu et la population a abandonné la zone, indiquent certains notables du coin. Depuis 2 semaines, des affrontements sont enregistrés dans la région, occasionnant la dégradation des conditions humanitaires. C'est une zone déjà enclavée avec une faible couverture téléphonique. La desserte en eau potable est un casse-tête dans la ville de Bounia. La régie des eaux, régie de distribution d'eau, est confrontée à d'énormes difficultés et n'arrive même pas à desservir le quart de la population actuelle de la ville. De nombreux ménages ont résolu de forer des puits d'eau dans leurs parcelles, ce qui n'est pas sans impact au bon fonctionnement de la régie des eaux. Sadiki Aboubakar pour les détails.
La direction provinciale de la régie des eaux à Nituri dit faire face à d'énormes difficultés de moyens, ce qui ne lui permet pas de répondre aux besoins en eau potable à Bounia pour une population estimée actuellement à environ 2 millions d'habitants. Construite en 1954, son usine de traitement et de distribution d'eau était conçue pour une population d'environ 50 000 habitants. Au-delà de la vétusté des matériels et la concurrence, la quantité d'eau produite par cette usine ne représente presque rien face à la demande, affirme Christian Beto, le directeur provincial de la régie des eaux. De nombreux ménages ont ainsi résolu de forer des puits d'eau dans leurs parcelles. Ce qui n'est pas sans impact sur le bon fonctionnement de la régie des eaux, affirme Christian Beto.
Le forage, ça réduit sensiblement le moyen de la régie des eaux et ça impacte négativement sur les recettes de la régie des eaux.
Par ailleurs, la plupart des puits des forages ne respectent pas les normes en la matière. Il s'agit notamment de la distance d'au moins 50 mètres entre le puits et les installations hygiéniques, déplore un cadre de la division provinciale en charge des hydrauliques. Ce qui implique de nombreuses conséquences de santé aux consommateurs, indique la même source. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi l'ONG Union de développement et de la restauration de la santé par les produits naturels qui alerte sur la montée vertigineuse des cas de tuberculeux dans la prison centrale de Boma. Cette association affirme qu'en dépit de cette situation, il s'observe un non-respect de mesures d'isolement des malades dues à l'absence des infrastructures adéquates. Cette structure qui milite pour les droits de l'homme, en l'occurrence les droits de la santé des vulnérables, sollicite auprès des autorités et des partenaires l'organisation d'une campagne de dépistage de VIH et de tuberculose dans l'objectif de briser la chaîne de transmission de ces maladies dans la prison de cette ville du Congo central. On écoute Alain Mobuka, coordonnateur de l'association, au micro de Nana Plurich Mambo.
Nous, l'Union de développement et de la restauration de la santé par des produits naturels, Idriss Appen en sigle, une structure qui milite pour les droits de l'homme, en l'occurrence les droits de la santé des vulnérables, dénonçons avec la dernière énergie les violations flagrantes des droits de l'homme pour les détenus au sein de cette prison urbaine de Boma. Vu la montée exponentielle des nombres de tuberculés qui s'élève à 15 au sein de cet établissement pénitentiaire et vu la carence des médicaments au sein de cette même prison, ainsi que le non-respect des mesures d'isolement des malades dues au manque des installations appropriées. Nous sollicitons l'intervention des autorités nationales et provinciales pour l'organisation d'une campagne de dépistage de VIH et de tuberculose au sein de cette prison dans le but d'arrêter l'hémorragie de ces fuyaux au sein de cet établissement pénitentiaire. Car les deux maladies marchent de pair.
Autre nouvelle, le président de la République attend de son gouvernement des mesures proactives, audacieuses et concertées pour favoriser le développement économique et attirer les investissements au pays. Dans son adresse lors du dernier Conseil des ministres, le chef de l'État souhaite que le parcours de l'investisseur et de l'entrepreneur en RDC soit déblayé d'embûches liées notamment à la multiplicité des structures administratives intervenant dans le processus d'investissement, au poids de la bureaucratie et à l'insuffisance des infrastructures de base afin de rendre le secteur privé plus compétitif. Quelques réalités souvent rencontrées sur le terrain dans cet élément que nous propose Billy Ivan Lutumba.
Le principe de l'État congolais est que tout investisseur qui souhaiterait créer son entreprise en RDC gagne en temps en s'adressant au guichet unique de création d'entreprise. Et selon la procédure générale, après le dépôt des documents nécessaires, le coût de création d'entreprise pour une personne physique est de $30. Pour une personne morale, le coût varie entre $90 ou $70 selon les cas. Le délai fixé pour le traitement du dossier est de 3 jours. Si certaines de ces dispositions sont quasiment respectées, les inquiétudes sont aussi diverses à en croire Alexandre Tchoula, DG d'une société privée privés en import-export.
La lourdeur d'obtenir le certificat ARSP, personnellement, j'ai des partenaires qui sont intéressés à venir créer des entreprises en partenariat avec nos sociétés, mais ils craignent cette lourdeur parce que ça n'inspire pas confiance. Et du côté de guichet unique de création des entreprises, et du côté de l'ARSP, la façon dont les entreprises, les sous-traitants sont gérés par l'ARSP, il y a beaucoup de plaintes.
Ici de noter que le guichet unique de création d'entreprises n'est pas encore installé sur toute l'étendue du pays. Pour pallier à cette carence, les tribunaux de commerce et le cas échéant, les tribunaux des grandes instances octroient le registre des commerces et de crédit immobilier qui confère à l'entreprise le droit de poser les actes de commerce. Ainsi, c'est au vu de ces quelques réalités que le chef de l'État interpelle les ministères sectoriels d'engager une réflexion approfondie afin de mieux servir les intérêts des investisseurs et des entrepreneurs.
Actualité internationale.
Le ministère algérien des Affaires étrangères a fait savoir hier lundi 17 mars dans un communiqué que son pays avait opposé une fin de non-recevoir à une demande formulée par Paris d'expulsion d'une soixantaine d'Algériens de son territoire. La réponse du ministre français de l'Intérieur ne s'est pas fait attendre. Sur X, Bruno Retailleux dit regretter que l'Algérie refuse d'appliquer le droit international avant d'ajouter qu'une riposte graduée sera appliquée.
L'invité.
En Ituri, la régie de distribution d'eau ne dessert qu'environ 2,5% de la population de Bounia en eau potable. C'est au regard de la démographie actuelle de la ville qui compte environ 2 millions d'habitants. C'est ce qu'a révélé hier lundi à Bounia le directeur provincial de cette entreprise de l'État. Dans une interview exclusive accordée à Radio Capi, Christian Beto affirme que la régie des eaux a besoin d'au moins 280 000 dollars américains pour relever ce défi. Christian Beto Amoyene explique dans cet entretien avec Sadiki Aboubakar.
Christian Beto, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est l'état des lieux de la desserte en eau potable dans la ville de Bougne actuellement?
Quand il y avait la pluie, on était dans les 73 000 mètres cubes par mois. Maintenant, nous sommes descendus jusqu'à 53 000 mètres cubes par mois à cause de la sécheresse.
Vous estimez à quel pourcentage aujourd'hui le nombre de la population que vous desservez dans la ville de Bougne compte tenu de la démographie actuelle?
Compte tenu de la démographie actuelle, en tout cas, nous sommes très bas parce que quand on avait construit l'usine, c'était pour 50 000 habitants. Et maintenant, la population est plus ou moins 2 millions d'habitants. Et cela, ça nécessite à ce que nous puissions construire une nouvelle usine, là où on peut facilement traiter l'eau. Et deuxièmement, il nous faut faire 3 forages industriels dans notre concession. Et à partir de ces 3 forages industriels, on peut prendre directement cette eau, on injecte à l'usine, ça pourra résoudre les problèmes.
Quelles sont les difficultés que vous avez pour effectivement augmenter la capacité de l'usine de production d'eau, parce que vous devriez normalement évoluer avec la démographie de la ville?
Les difficultés, c'est les moyens qui ne suivent pas pour arriver soit à faire les 3 forages industriels, soit à faire la deuxième usine, là où on peut facilement traiter l'eau, en plus de ces têtes de source que nous utilisons aujourd'hui. Nous avons fait des lobbying, même au niveau du gouvernorat. Le gouvernorat est en train de faire des lobbying auprès des partenaires. Ça pourra marcher.
Il s'agit là d'un projet à long terme, mais en court terme, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous comptez faire pour subvenir tant soit peu aux besoins d'eau potable dans la ville de Bougna? Parce que, je vais le rappeler, la ville compte aujourd'hui 24 quartiers et presque la moitié de ces quartiers sont nouveaux où il n'y a pas le réseau de distribution de la régie des eaux.
Ce que nous comptons faire, c'est d'abord réhabiliter les réseaux. Ça, c'est premièrement parce que le réseau est vraiment très vétuste. Et deuxièmement, c'est essayer de remettre des tuyaux là où les abonnés manquent de l'eau. Et c'est ça le projet en court terme.
Il y a quand même des moyens pour cela.
Bon, nous n'avons pas suffisamment de moyens, mais tant soit peu, nous voulons quand même faire quelque chose au lieu de croiser les bras.
Alors, vous avez parlé de la capacité très insignifiante de production d'eau par la régie des eaux aujourd'hui, compte tenu de la démographie. Qu'est-ce qu'il faut pour que même cette petite quantité de population desservie soit desservie en bonne et due forme, en termes de qualité et quantité?
Bon, la qualité est bonne de l'eau que nous fournissons. Ce que nous pouvons demander à nos abonnés, c'est de payer leurs factures. Parce que si tout le monde se met à payer en totalité tout ce qu'il doit à la régie des eaux, nous aussi, nous allons nous mettre avec le moyens qu'ils vont nous donner pour qu'on arrange les réseaux, que ce soit pour les fuites, que ce soit pour le manque d'eau.
Aujourd'hui, il y a les travaux de modernisation de la voirie dans presque tous les quartiers de la ville. Est-ce que ces travaux n'impactent pas le réseau de distribution d'eau de la Régie des Eaux?
Oui, ça impacte négativement à cause de nos tuyaux qui sont des fois par-ci, par-là arrachés pendant la construction de ces routes. C'est pour cela que nous demandons vraiment la collaboration avec tous ceux qui gagnent le marché pour l'entretien des routes, comme c'est pour le bien-être de toute la population, que nous soyons associés pour que nos abonnés aussi ne manquent pas de l'eau après avoir entretenu les routes.
Et est-ce que les dommages ne sont pas réparés par les auteurs?
Peut-être à l'époque, mon Gabaon avait fait des actions par-ci par-là, mais pour le moment, en tout cas, je n'ai rien vu.
Alors, Christian Beto, la Régie du Jour a besoin de quel montant par exemple, ou un budget estimé à combien pour relever tous ces défis auxquels elle fait face à Bounia?
Me référant au défi que j'avais déposé auprès de son Excellence, notre gouverneur, il nous faut au moins 71 000 dollars. Ça pourra acheter les tuyaux et nous mettre au travail uniquement pour les cas d'urgence. Mais si c'est pour réparer tous les réseaux, là, c'est énorme. Il nous faut au moins 280 000 dollars s'il faut répondre à tous ces besoins à long et à court terme.
Christian Beto Amoyene, merci.
Merci beaucoup.
Voilà, ainsi prend fin ce journal. Au nom de Pele Kipela Mondeux, de Mimi Kindou, je vous dis merci de l'avoir suivi et excellente soirée à toutes et à tous.